lire dans Hébreux 9, versets 23 à 28. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, on va commencer à demander la bénédiction du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence, nous sommes assemblés pour t'adorer, nous sommes assemblés aussi pour écouter ta parole. Seigneur, donne-nous l'onction de ton esprit à la fois sur celui qui prêche et à la fois sur les auditeurs, afin qu'on comprenne le texte qu'on étudie aujourd'hui et qu'on applique dans nos vies de tous les jours, qu'on obéisse à ce que tu veux nous enseigner par ce moyen. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui « La supériorité ineffable du sacrifice de Christ ». Je vous rappelle que « ineffable », ça veut dire que peu importe la quantité de mots ou les mots savants qu'on connaîtra, ineffable, c'est par définition, on n'est pas capable d'aller au fond de comprendre la supériorité du Christ. Alors ici, bien entendu, la supériorité ineffable du sacrifice de Christ, si c'est supérieur, il faut que ce soit supérieur par rapport à quelque chose. C'est supérieur par rapport à l'ancien système judaïque. Les sacrifices d'animaux que les Juifs faisaient à l'époque. Alors ici, tout le déroulement de l'Épître aux Hébreux a pour but de démontrer l'infinie supériorité de Jésus-Christ sur toute chose. Alors, si vous voulez retenir par un seul mot le contenu de l'Épître aux Hébreux, c'est le mot « supérieur », définitivement. Alors aujourd'hui, on va regarder trois points à l'intérieur de ce message-là. La supériorité ineffable du sacrifice de Christ, d'abord par sa puissance, dans le verset 23. Dans le verset 24 à 26, par sa place. Et dans le verset 27 et 28, par sa portée. Alors jusqu'ici, on peut prendre, partir de l'Épître aux Hébreux, partir du chapitre 1, et de regarder comment l'auteur a illustré ou déroulé son idée de démontrer la supériorité de Jésus-Christ sur toute chose. D'abord, dans le début du chapitre, il avait démontré que Christ est infiniment supérieur aux anges et aussi aux prophètes de l'Ancien Testament. Parce qu'il était, lui, le prophète. Eux, c'était des prophètes. Lui, c'est le prophète avec un L majuscule et un P majuscule. Aussi, il avait démontré que Christ est infiniment supérieur à la personne de Moïse. Et on doit se souvenir que pour les Juifs, le personnage de Moïse, c'était le personnage ultime. Alors, pour eux, se faire dire qu'il y avait quelqu'un de supérieur à Moïse, c'était quelque chose. Ensuite, il a démontré l'infinie supériorité de Jésus-Christ sur un autre personnage important de leur histoire, Josué. Josué qui les avait fait entrer par des guerres dans la terre promise et Dieu l'avait accompagné dans toutes ces guerres-là. Alors, supérieur à Moïse, supérieur à Josué, mais il restait un autre personnage extrêmement important dans l'Ancien Testament. Et ici, depuis quelques semaines, on est surtout dans cet aspect-là. Christ est infiniment supérieur au souverain sacrificateur. On se souvient dans notre étude du tabernacle que le souverain sacrificateur, c'était lui seul qui pouvait entrer dans la partie très sainte et il ne pouvait pas rentrer là n'importe quand. Il ne pouvait pas rentrer là à tous les jours. C'était une fois par année et il fallait qu'il le fasse d'une façon particulière avec le sang des animaux et il fallait qu'il le fasse en emmenant un encensoir de manière à couvrir l'ensemble du lieu très saint d'une épaisse fumée d'encens, sinon il serait mort. Alors, ici, On sait que les Juifs étaient attachés à leur ancien système judaïque et qu'il fallait qu'ils démontrent, qu'ils leur démontrent que Jésus-Christ était le nouveau souverain sacrificateur et qu'il dépassait infiniment le souverain sacrificateur Aaron. Alors, depuis quelques semaines, on est dans la supériorité par rapport à Aaron. On avait vu par rapport à la supériorité que Jésus-Christ amenait une meilleure assurance, qu'il était un meilleur sacrificateur parce qu'il avait été ordonné par Dieu le Père lui-même lorsqu'il lui avait dit dans le psaume 110, verset 4, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » On a vu ça dans les semaines dernières. Donc, il était une meilleure sacrificature. Et dans les semaines précédentes aussi, on a vu qu'il était une meilleure alliance. L'ancienne alliance, c'était le système de sacrifice des animaux des Juifs. La nouvelle alliance, maintenant que Christ est venu, toutes ces choses-là étaient des symboles. Maintenant que la substance est arrivée, Christ remplace toutes ces choses-là qui étaient des ombres et des symboles. Donc, une meilleure alliance. Et là, on est rendu à meilleur sacrifice. Comment il va démontrer que Christ est un meilleur sacrifice? Il commence au début du chapitre 9, puis il se rend jusqu'à 10-18. C'est une importante section où il va démontrer comment Christ est infiniment supérieur à Aaron avec le sacrifice. Alors, toute la partie de l'Épître, allant du chapitre 9 jusqu'au chapitre 10, verset 18, développe l'idée que Christ est un infiniment meilleur sacrifice. Voici comment l'auteur a développé son idée. C'est sûr qu'on ne reprend pas toutes nos affaires des semaines dernières, mais juste pour résumer. Dans Hébreux 9, verset 1 à 10, on avait vu que le tabernacle terrestre, comme on a vu dans notre étude sur le tabernacle, ça l'avait, c'était un pédagogue. Alors, un pédagogue, par définition, il y a des professeurs ici dans l'Assemblée. Alors, des professeurs, c'est quelque chose qui enseigne. Alors, le tabernacle avait pour but d'enseigner des choses, soit sur la personne ou soit sur l'œuvre de Jésus-Christ. On pourrait reprendre tout en détail tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, le chandelier, tout ça pointait vers Christ. Donc, on a vu dans cette section-là que le tabernacle terrestre du système judaïque, c'était un pédagogue vers Christ. La semaine dernière, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22, l'auteur avait démontré que Christ est la substance des ombres et symboles du système judaïque. Il est en train de dire que tous ces systèmes-là, ça avait eu une raison d'être avant la venue de Jésus-Christ. Parce que c'était des choses qui pointaient vers lui, c'était des choses qui enseignaient sur lui, et c'était des symboles. Maintenant que la substance est arrivée, les ombres, on se doit d'oublier ça et de passer à autre chose. Maintenant, dans le chapitre 9, verset 23-28, il va continuer l'idée que le sacrifice de Christ est d'une ineffable supériorité par trois choses qu'on a vues tout à l'heure, les trois idées qu'on dit qu'on va développer aujourd'hui. Par sa puissance, deuxièmement par sa place, et troisièmement par sa portée. On retourne au verset 23, si on veut développer l'idée que l'ineffable supériorité de Christ par sa puissance. Hébreux 9, verset 23, ça nous disait « Il était donc nécessaire » puisque les images, ou les symboles, ou les ombres, on peut changer de mot, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Ça a l'air de rien à première vue, comme ça on lit ça, mais est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Alors, pour qu'on puisse développer l'idée de la puissance du sang de Christ là-dedans, il faut voir que c'est une puissance adéquate. Dans le sermon précédent, on avait vu que l'inauguration de la première alliance qui avait été faite par Moïse avait été effectuée par du sang, par le sang des animaux. Moïse avait tout aspergé de sang. Le livre de l'alliance, donc les paroles qu'il avait reçues de Dieu, il a mis du sang dessus. Ensuite, il a envoyé du sang sur le peuple. Ensuite, il l'a envoyé sur le tabernacle et sur tous les ustensiles que contenait le tabernacle. Alors, si on prenait notre étude, il y avait du sang sur l'autel, du sang sur où il se lavait avant de rentrer, après ça, sur tout ce qu'il y avait à l'intérieur du tabernacle. la table des pleines propositions, l'autel des parfums et le chandelier. Et quand il traversait le voile qui séparait le Saint du Saint des Saints, et là, encore une fois, il fallait qu'il amène du sang. Tout était purifié par du sang. Alors, il voulait leur montrer que si les choses qui étaient des symboles se devaient d'être purifiées par du sang, le ciel lui-même se devait d'être purifié par du sang aussi. On va voir pourquoi tantôt. Si on recule un petit peu dans Hébreux 9, versets 18 à 22, qu'on a vu la semaine dernière, où il avait dit ces choses-là, il avait dit « Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, l'alliance du système des sacrifices d'animaux, avait été inaugurée avec du sang. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des boucs et des veaux avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, c'était toute la tente, là, toute la tente au complet, sur le tabernacle, je t'ai rendu où, là? Excusez-moi. Excusez-moi. 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Alors, à l'intérieur du tabernacle, il y avait plusieurs choses et il fallait que ça soit aspergé de sang. Et ça dit dans le verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. » Et cela, on l'a entendu souvent, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » On va aller voir dans l'Ancien Testament comment ça avait été dit lors de l'événement. Lui, il rapporte un événement, mais l'événement c'était dans Exode chapitre 24, les versets 4 à 8. Alors ça nous dit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Verset 6, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Voyez-vous, tout était, il y avait du sang partout. Verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Quelle farce! Parce que quand on connaît l'histoire d'Israël, on sait qu'ils étaient au moins de bonne volonté. Un peu comme nous autres, bien souvent. On est de bonne volonté, mais on n'accomplit pas toujours les ordres et les commandements de l'Éternel. Mais ils voulaient. Au moins, il y avait ça. Ils voulaient obéir. Alors, ça dit dans le verset 18, « Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Rappelons que dans la première alliance en Horeb, la moitié du sang avait servi à être répandu sur l'autel et l'autre moitié sur le peuple. Ces choses symbolisent que l'œuvre de rédemption avait deux facettes. La satisfaction de Dieu, ce que les Anglais appellent « God words ». Le sacrifice de Christ avait d'abord pour but d'honorer Dieu le Père. Nous, on vient en deuxième. « God words ». C'est vraiment sur l'autel. « God words » s'est répandu sur l'autel. C'est le symbole que la satisfaction de Christ était d'abord envers son Père. Et le salut envers les élus, ce que les anglophones appellent « man words ». God words, il faisait les choses d'abord pour Dieu le Père. Ensuite, nous, on reçoit les bénéfices. Le sang répandu sur le peuple. Le sang se devait d'être non seulement répandu, mais aspergé sur le peuple, signifiant que toutes nos bonnes œuvres, sans exception, ne sont acceptées et agréées par le Seigneur que par les mérites de Jésus-Christ. Pourquoi il en mettait sur le livre? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la Bible et qui retirent les choses qui leur déplaient. Le sang, c'est pas très agréable. Alors, il enlève ça. Mais pourquoi, au début de la première alliance, le sang était versé sur le livre? C'était pour dire qu'on ne peut pas prendre la Bible sans et enlever cet élément important-là. Pourquoi sur toutes les choses du tabernacle? C'est parce que toutes les choses du tabernacle parlent de la personne de Christ. Qu'on ne peut pas enlever le sang de ça. Ses souffrances et tout ça. Et la même chose sur l'autel et sur tous les ustensiles. Alors, le verset 23 nous enseigne que les choses célestes devaient être aussi purifiées. Pourquoi cela devait-il se faire? Le ciel n'est-il pas pur en soi? Bonne question, ici on se dit. Il fallait qu'ils prennent du sang, qu'ils mettent ça sur tout ce qui symbolisait la venue de Christ. Mais le texte est en train de nous dire que même les choses célestes se devait d'être purifié. Alors, je pense que c'est une question légitime de se dire, mais pourquoi ça devait de purifier le ciel lui-même? Alors, le verset 23 nous rappelle que les objets de tout le tabernacle terrestre étaient des images, des figures, des symboles. Donc, si les symboles se devaient d'être purifiés, il va de soi qu'il fallait que les célestes le soient aussi. Le premier principe ici qu'il nous faut comprendre est que l'expiation par la victime, qui est Christ, doit correspondre en dignité à la nature des offenses et des bénédictions obtenues par les sacrifices. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on prenait un animal, on mettait nos deux mains sur sa tête, on l'égorgeait, on le vidait de son sang, on le mettait sur l'autel, on le faisait brûler. C'est à quoi l'image de tout ça? On dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu. Quand il a été sur la croix, il a subi le châtiment. C'était l'équivalent de l'animal brûlé, le châtiment de son père. Alors, c'était bien important que toutes ces choses-là se fassent. Alors, si on mettait nos mains sur les animaux, c'est qu'on est en train de dire « ma culpabilité, je la transfère sur la tête d'un animal. » Et la punition que j'aurais dû recevoir, c'est l'animal qui la reçoit à ma place. Voyez-vous, toute l'idée de la substitution du sacrifice de Christ était enseignée par ces choses-là. Dans le système judaïque, les sacrifices étaient des animaux, on le sait. Ceux-ci subissaient le châtiment des hommes pécheurs à leur place. C'était ça l'idée. Tu faisais venir un animal, tu mettais tes deux mains sur la tête de l'animal, tu disais, mes péchés, la punition que cela aurait dû me donner, je le transfère par imposition des mains sur la tête de l'animal. Voyez-vous, quand on parle de Christ, on prend notre culpabilité, on la met sur l'agneau de Dieu, et c'est l'agneau de Dieu qui prend notre châtiment à notre place. L'animal, lui, n'avait pas péché. Si les péchés étaient commis par des hommes, c'était le cas, il fallait que la punition rattachée à ces péchés fût payée par un homme. Christ était pleinement homme, on le sait. La victime se devait donc d'être ennoblie. Quand on dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu, on le représente comme un animal, mais on le représente, pourquoi on dit qu'il est l'agneau de Dieu? Parce qu'il représente l'animal de l'ancien système sacrificiel de l'Ancien Testament, et c'est sur lui qu'on transfère la culpabilité de nos péchés, et c'est sur lui que le Père va juger nos péchés. Alors, le sacrifice de l'animal purifiait de la culpabilité cérémonielle du corps seulement. Et les bénédictions rattachées étaient de nature terrestre et temporelle. Quand le souverain sacrificateur rentrait une fois par année dans le Saint des Saints, les Juifs qui faisaient ces choses-là obtenaient des bénédictions, mais ça leur donnait ça purifiait leur corps et non pas leur péché. Ça couvrait leur péché, ça ne les enlevait pas. C'est ça la différence. Alors, et les bénédictions étaient de nature terrestre et temporelle. Le sacrifice de Christ, qu'on appelle l'agneau de Dieu, quant à lui, enlevait de façon définitive la culpabilité morale et apportait des bénédictions de nature spirituelle et éternelle. Vous, c'était pas juste pour un an, là. C'est ça qu'on est en train de rentrer, l'idée que quand Christ est rentré, il est rentré une fois pour toutes, il a réglé le problème une fois pour toutes. Alors, on se posait la question, pourquoi les choses célestes devaient-elles être purifiées? Bien, je pense qu'on peut trouver la réponse dans la Bible elle-même. Lorsque les anges chutèrent et apostasièrent, le ciel fut souillé. De plus, les âmes des élus se devaient d'être réellement lavées, purifiées et sanctifiées avant d'aller vivre dans leur demeure éternelle. Il y a une chose intéressante dans le verset 23 que si on lit rapidement, on ne le voit pas. Mais si on le lit avec attention, ça nous démontre une chose, c'est qu'on lit toujours trop rapidement. On ne se pose pas de questions. Mais c'est important de se poser des questions. Pourquoi le texte du verset 23 nous parle de sacrifice au pluriel, avec un S? Donc, c'est plusieurs. Plus excellent que ceux-là. Il parle de quoi? Il parle des sacrifices de l'Ancien Testament. La réponse est que le sacrifice, au singulier, de Christ comporte plusieurs facettes. Et qu'ici, le mot sacrifice au pluriel est utilisé pour démontrer que le sacrifice au singulier de Christ accomplissait parfaitement toutes ces facettes du sacrifice. Ces facettes nous étaient présentées dans les premiers chapitres du livre de Lévitique et qui étaient encore pratiquées par le système sacrificiel judaïque. Et là, on voit l'importance de connaître notre Bible. Si quelqu'un essaie de comprendre le livre d'Hébreux, puis il n'a jamais lu l'Ancien Testament, puis il n'a jamais lu un peu la signification de Exode 25 à 40 qui explique le tabernacle. Nous, on est chanceux, on vient de le faire. Et après le livre d'Exode, il y a un livre difficile qui s'appelle Lévitique. Assez difficile parce que bien souvent, on lit ça. Où est-ce qu'il s'en va avec ça? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. La clé d'interprétation des Écritures, il y en a une. C'est la personne de Christ. Cherchez Christ dans les chapitres de Lévitique, et là, vous allez découvrir des choses magnifiques. Si vous allez dans Lévitique, dans les cinq premiers chapitres, on n'ira pas là, mais juste pour vous dire, quand il parle des sacrifices plus excellents, ces choses-là là, étaient encore faites là, à l'époque du système judaïque. Il y avait cinq sortes de sacrifices que les Juifs se devaient d'offrir au Seigneur dans le livre de Lévitique. Alors, il y avait dans Lévitique 1, l'Holocauste. On va voir tout à l'heure la signification de ça. La deuxième, c'était l'offrande de gâteau. Lévitique 2. La troisième, c'était l'offrande de prospérité. Lévitique 3. La quatrième, c'était l'offrande pour le péché. Lévitique 4. Et l'offrande pour le délit, Lévitique 5. Tant qu'on n'a pas fait le transport de la signification, le parallèle de Lévitique avec un aspect ou une facette de l'œuvre de Jésus-Christ, tout ce qu'on voit, c'est qu'on ne comprend rien dedans. Mais quand vous les mettez en rapport avec l'œuvre de Jésus-Christ, ça devient lumineux. Il y a des choses importantes, parce que le livre de Lévitique, je l'ai étudié une fois, et je l'ai exposé de A à Z. Et c'est un livre que, moi j'avoue que la première fois que j'ai tombé là-dedans, j'ai trouvé ça difficile. La première fois que j'ai lu la Bible complète, j'ai lu Lévitique, je ne peux pas dire que ça m'a accroché de façon particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre-là qu'on ne comprend pas, qui sont des symboles, et que tant qu'on ne comprend pas le symbolisme, on trouve ça plus ou moins intéressant. Alors, si on revient un petit peu sur nos cinq sacrifices qui représentent une facette ou un autre du sacrifice. Alors, on a dit qu'il utilisait le mot sacrifice au pluriel, c'est qu'il veut parler que le sacrifice de Christ accomplit les cinq choses qui sont mentionnées dans Lévitique 1 à 5 et qui démontrent un aspect ou une facette quelconque de l'œuvre de Christ. Et c'est bien important, c'est que les trois premières offrandes, donc holocauste, offrande de gâteau, offrande de prospérité, symbolisent la priorité, étaient dirigées d'abord vers Dieu le Père, Godward. On revient encore à ces deux mots anglais-là, mais c'est des mots importants. Les trois premiers aspects du sacrifice de Christ, qui symbolisaient le sacrifice de Christ, étaient d'abord pour l'honneur et la gloire du Père. Pas pour nous autres. Lisez n'importe quel bon commentaire de Lévitique, on va vous dire ça. Alors, tandis que les deux dernières, pour le péché et pour le délit, là on parle du péché de l'homme. Alors, on va regarder ça un peu rapidement. Les trois premières offrandes symbolisent la préciosité du sacrifice de Christ envers Dieu lui-même. God words. L'Holocauste. L'Holocauste, ça veut tout simplement dire, ça symbolise la plénitude et la dévotion de Jésus-Christ, tout pour la gloire de Dieu et le parfait accomplissement de sa volonté. Quand il est venu sur la terre, c'était d'abord pour montrer au Père que c'était possible de faire sa volonté. C'était pour l'honorer. Alors en anglais, celui que l'auteur, je me suis servi, il sert de l'allitération qu'on appelle, il fait tout commencer les cinq sacrifices par un F. Alors, je vais vous les donner en anglais, après ça, on va les traduire. Il dit, l'Holocauste, c'est « the fullness of Christ's devotion ». La plénitude de l'accomplissement de la volonté du Père. Donc, c'était d'abord pour le Père qu'il accomplissait l'Holocauste, là, c'était d'abord pour ça. La deuxième, l'offrande de gâteau, c'est la vie parfaite de Christ sur terre, qui a été formée, remplie et conduite par le Saint-Esprit. En anglais, on l'appelle « the flawlessness ». Of Christ's devotion. Il n'a pas manqué dans quelques devoirs que Dieu exigeait de l'homme, flawless, aucun manquement d'aucune façon. Alors voyez-vous, d'abord la première c'était fullness, il a vraiment accompli tout ce que Dieu voulait, et il l'a accompli deuxièmement par l'offrande de gâteau, c'est le symbole qu'il l'a accompli sans aucun manquement d'aucune sorte, aucun moment. La troisième c'était l'offrande de prospérité. Donc, c'est le symbole que l'adorateur entre en communion avec Dieu qui est restauré et la capacité de l'adorateur à jouir de celui qui fait éternellement les délices de Dieu. En anglais, on appelle ça « fruitfulness of Christ's devotion ». Voyez-vous, d'abord « fullness », ensuite « flawlessness », sans manquement, et ensuite que toute cette œuvre-là produirait des fruits, mais d'abord pour le Père. Les trois premiers aspects de l'œuvre de Christ étaient d'abord pour son Père. Ensuite, on parle, alors que les deux premières offrandes, la quatrième et la cinquième, les deux dernières offrandes nous parlent du dessein ou le but de son sacrifice en rapport avec les hommes. Godward, les trois premières, deux dernières pour les hommes, manwards. Et là, c'est important de saisir, parce qu'il dit qu'il y en a une, l'offrande pour le péché. Et à quoi qu'il fait référence? Il fait référence que l'œuvre de Christ couvrait le principe du péché. Notre nature pécheresse, le péché au singulier. Comment ça se fait que nous, on vient au monde, puis on a toute une nature pécheresse? Il fallait que le fait que le premier homme ait manqué, et que par son manquement, tout ça s'étende à l'ensemble des hommes, fallait que ça soit payé, ça. Donc, souvent, on confesse à Dieu nos péchés, mais les péchés actualisés, les péchés qu'on a déjà commis. Mais notre nature pécheresse, là, on l'a hérité, puis on est coupable de ça aussi. Il fallait que Christ, donc c'était le premier aspect qui allait, pour les hommes, de payer pour notre nature pécheresse. Et la cinquième, c'était l'offrande pour le délit. Voyez-vous, le délit, ça couvre la pratique des péchés. Christ expie nos péchés au pluriel à notre place. Les péchés sont au pluriel. Donc, le premier, c'était pour le péché, le principe qu'on est des pécheurs par nature. Pourquoi on pêche? Parce qu'on est des pécheurs. Pourquoi un chien se comporte comme un chien? Parce qu'il est un chien, c'est sa nature. Pourquoi un chat se comporte comme un chat? C'est parce que c'est un chat. C'est sa nature, il se comporte comme ça. Nous, pourquoi on pêche? Parce qu'on a une nature pécheresse et qu'elle ne demande qu'à sortir, à s'exprimer sous toutes sortes de formes. Les péchés, c'est vraiment la pratique des péchés. Voyez-vous, les deux aspects, les deux derniers aspects dans Lévitique, c'est vraiment pour l'homme. D'abord, pour régler le problème de la pratique du principe du péché, c'est-à-dire on a hérité une nature pécheresse. Et le deuxième, c'est que la pratique du péché fait en sorte qu'à chaque jour, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos omissions, et même par des fautes secrètes, on fait même des péchés qu'on n'est même pas au courant. C'est fort, ça, quand on pense à ça. On en fait. Et d'où ça? Ça sort de où, ça? Ça sort de notre nature pécheresse. Ça sort du principe. On pêche parce qu'on est hérité d'une nature pécheresse, et on ne peut pas faire autrement. On est comme ça. Et la dernière partie du verset 23, c'est vraiment pour consacrer le lieu où Christ rentrait, mais après sa résurrection et son ascension, il est rentré, il est assis à la droite de Dieu. Et on était en lui. On est encore en lui. Ça, c'est une affaire, faut pas oublier. On est encore en lui. Si on va un petit peu plus loin dans le chapitre 10, dans le verset 22 à 24, alors ça nous parle de la consécration. Mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Christ s'est pleinement consacré et dédié à Dieu par son sang. Le ciel sera l'habitation du corps mystique de Christ. Les élus vivront en paix parfaite avec les anges qui n'ont jamais péché. Alors, on voit vraiment dans le verset 23, l'idée, c'est vraiment sur la puissance de son sang. Deuxième idée qu'on voit dans le verset 24 à 26, on voit la place. C'est puissant en soi, mais c'est puissant parce que c'est fait à un endroit, une place en particulier. Dans le verset 24, ça dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. » Le sanctuaire terrestre, là, le tabernacle, le sanctuaire, c'est la partie en arrière. Tout ça, ça avait été construit par des mains d'hommes, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc la place, c'est la place de la comparution. Il comparait au ciel et comme nous sommes déjà en lui, comme nous sommes ressuscités déjà en lui, on est entré en quelque sorte dans le ciel nous-mêmes actuellement. Parce que Christ est là, on est en lui, donc on est là. Rappelons-nous que le mot Christ veut dire « oint ». Il était le prophète « oint ». Le souverain sacrificateur « oint ». Et le roi « oint ». Cette onction par le Saint-Esprit avait été donnée par Dieu le Père lui-même. Acte 10, 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Il était Dieu, mais il était aussi le médiateur, il était aussi l'homme. Et comme homme, comme médiateur, Dieu l'avait rempli du Saint-Esprit dans toutes ses trois fonctions. Parler au nom de Dieu, prophète, devenir notre roi, Christ est notre roi, et aussi l'office de souverain sacrificateur, c'était que deux choses, on se souvient, on les répète souvent, mais c'est tellement important de les répéter. Dieu demandait que chacun de nous ait accompli la loi, le décalogue, les 10 commandements, alors donnez-lui le nom que vous voulez, à la perfection. Il faut que j'ai jamais eu une idée croche, pécheresse, et mon Dieu. Donc, on examine comment ça tourne dans cette petite boîte-là, des fois. Et en as-tu des péchés qui se promènent là-dedans? Si on actualisait tout ce qui se passe dans notre coco, la société n'irait pas bien. On est pécheur dans notre esprit, dans nos paroles. Il suffit d'écouter nos conversations au cours d'une journée. Même nous, comme saints, on pêche encore avec les lèvres en masse. En action, en omission, ça c'est des péchés qui ne paraissent pas. Qui de vous peut dire qu'est-ce que je n'ai pas fait par rapport au commandement que Dieu me donne? Vous ne le savez pas. Mais Dieu, lui, il sait. Quand il me commande quelque chose et que je ne le fais pas, c'est un péché aussi grave qu'un péché de commission. Et en plus, la Bible nous va plus loin. Ça, la Bible nous dit qu'on fait des péchés qu'on n'est même pas conscient qu'on les fait. On fait-tu dur assez? Donc, des péchés, on en a fait, fort probablement, on est tous des adultes, des milliers, si ce n'est pas des millions. Alors, on a un problème. Dieu nous disait que c'était l'exigence, que si on voulait vivre en sa présence, c'était ça que ça prenait. Hi, c'est un gros contrat. Alors, il y avait deux choix. Ou c'est nous qui le fait, ou c'est un autre qui le fait à notre place. Tout le salut est basé sur l'idée de la substitution. Christ s'est substitué à nous pour accomplir les exigences que le Père avait pour chacun de nous. Et Christ s'est substitué à nous pour subir le châtiment qui se devait d'être le nôtre à notre place, encore une fois. Et qu'est-ce que c'était le châtiment? Plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Ne serait-ce que pour un péché, le plus petit de tous vos péchés, là. Celui-là, s'il y avait eu juste celui-là, ça aurait été suffisant pour vous plonger là. Si Dieu nous donnait, nous ouvrait l'esprit pour nous faire comprendre jusqu'à quel point l'enfer, c'est un lieu. J'ai l'intention éventuellement de prêcher sur ce domaine-là, on néglige ou pas. Et c'est nécessaire parce que plus on va comprendre de quoi Dieu nous a sauvés, plus on va être consacré et plus on va vouloir lui exprimer de la gratitude. Parce que moi, si vous me diriez du jour au lendemain, là, t'es condamné à aller dans une pièce qui va avoir du feu, tu vas rester là 24 heures. S'il y aura quelqu'un qui sortirait et dirait, bon, moi, Marcel, on va prendre ta place, ça te dérange-tu? Prends-la, mon ami. 24 heures. On ne parle pas de 24 heures, là. On parle de l'éternité. Jésus nous a sauvés des flammes éternelles. C'est inimaginable. Ça dépasse. Quand on parlait d'ineffable, alors on parlait d'insondable. On parle d'idées qui nous dépassent, mais nous dépassent tellement. Ça nous dépasse tellement. Alors, il a fait les deux. Il a obéi, ce qu'on appelle l'obéissance préceptive. Il a obéi aux commandements, aux 10 commandements, à la perfection, en pensée, en parole, en action. Et il a aussi obéi dans le sens qu'il a accepté volontairement de subir notre châtiment à notre place. C'est tellement merveilleux, salut, même après 34 ans, j'en suis encore ému, juste en parler. Parce que c'est tellement grand ce qu'il nous donne. Là. C'est tellement grand. Donc, la place. Luc 4, versets 18 à 21. Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est qui les pauvres? C'est nous les pauvres. Pas nécessairement les pauvres matériellement, hein? Les pauvres spirituellement. « Il m'a envoyé pour guérir. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est malade. « Ceux qui ont le cœur brisé. » « Pour proclamer aux captifs la délivrance. » Ça veut dire qu'on est prisonnier. On est prisonnier du péché. Et aux aveugles, est-ce que le Seigneur, dans le texte ici, il parle des aveugles physiques ou les deux? Nous savons, au moins, il parle des deux, parce qu'il a guéri des aveugles physiques aussi. Ça dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Dans le chant Amazing Grace, qu'est-ce que le chant dit? I was blind, now I see. Il était aveugle, comme on était tous aveugles avant que le Seigneur nous sauve. Maintenant, on voit. Il nous a redonné la vue, mais la vue spirituelle. Pour renvoyer libres les opprimés. Ça veut dire qui nous opprime? Nous-mêmes, le monde et Satan. Leurs efforts conjugués. Et dans le verset 19, il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. On se souvient que nous autres, un livre, on ne peut pas rouler ça, mais à l'époque, c'était des rouleaux. Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. On parle du Seigneur, c'est lui-même qui parle. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et si vous diriez dans le grec, ça dit vraiment, vous l'entendant. Il est en train de dire, cette parole de l'Écriture, qui était une prophétie, qui parlait de lui, elle s'accomplit, vous l'entendant, avec vos oreilles. C'était important. Jean 3, versets 34 et 35, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. » Donc, c'est la place de la comparution. Aussi, c'est la place de la communion. Hébreux 9, 25. « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. » Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? C'est que le Christ est rentré une fois. Les souverains sacrificateurs de l'époque de l'Ancien Testament, il fallait qu'ils rentrent une fois par année, mais ça faisait combien d'années qu'ils rentraient une fois par année? 1500 années. Depuis le début du système judaïque à venir jusqu'à la venue de Christ, il y avait eu 1500 ans. Donc, le souverain sacrificateur avait traversé le lieu très saint 1500 fois. Et ici, ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre aux Juifs, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament avait fallu qu'il traverse le souverain sacrificateur et ses successeurs, bien entendu, parce qu'Aaron il est mort, son fils a pris sa place, etc., jusqu'à Jésus-Christ. 1500 fois qu'ils ont traversé ce rideau-là. Mais il est en train de faire comprendre aux Juifs, pour le Seigneur, Jésus, c'est pas nécessaire qu'il fasse ça 1500 fois, lui, parce que son sacrifice était parfait. Quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il rentrait lui-même. Les Écritures nous disent qu'il était un pécheur. Il offrait le sacrifice pour d'abord pour ses propres péchés. Alors, il n'était pas parfait. C'est pour ça qu'il s'est recommencé tout le temps. Mais le Seigneur, lui, quand il est rentré, il avait mené une vie parfaite sur la terre et son travail, il n'a pas besoin de le refaire. Alors, c'est pour ça que c'est un blasphème, la messe, que de vouloir reprendre le sacrifice de Christ, même si on dit que c'est un sacrifice non sanglant. Parce que ça dit bien, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur rentrait chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Le sanctuaire, c'est la place de la communion avec Dieu. Le sacrifice de Christ est absolument parfait et unique. Il n'a pas besoin d'être continuellement repris comme celui du souverain sacrificateur du système judaïque. On va aller un petit peu plus loin dans Hébreux 10, allez voir que là, il va expliquer encore en plus en détail. Hébreux 10, versets 1, 10 et verset 14. Vous remarquerez la différence d'efficacité quand on parle du sacrifice de Christ. Dans le verset 1, on dit, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, remarquez bien les mots, ne peut jamais. » Par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Il est en train de dire, dans le chapitre 10, l'ancien système ne pouvait pas amener les assistants à la perfection. Parce que c'était répétable, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Et là, c'est important de lire le reste du verset. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois unique une fois. Verset 14, « Car par une seule offrande, quelle offrande? L'offrande de son propre corps. Par une seule offrande, et gardez bien, là, tout à l'heure, il disait que l'ancien système judaïque ne pouvait rien amener les assistants à la perfection. Et gardez ce que ça dit pour Christ. « Car par une seule offrande, l'offrande de son propre corps, l'agneau de Dieu, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Voyez-vous, il n'y a pas besoin de recommencer. C'est pour ça qu'il fallait qu'il explique aux Juifs que pour lui, étant souverain sacrificateur, il n'avait pas besoin de retourner 1500 fois. Là, parce que lui, c'était parfait ce qu'il avait fait. Et dans le verset 26, on voit aussi donc la place de la comparution, la place de la communion et aussi la place de la complétion. Il dit dans le verset 26, « Autrement, si ça n'avait pas été le cas, qu'il est rentré une fois et que ça aurait été parfait, là, il dit, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » La complétion de quelque chose, c'est l'action de compléter, d'achever et d'accomplir parfaitement. Christ a accompli parfaitement par substitution nos devoirs envers Dieu, on a vu un peu tout à l'heure, l'obéissance préceptive à sa loi et l'obéissance pénale, donc subir le châtiment à notre place. Son sacrifice était valide pour les péchés de toutes les époques de l'histoire humaine. L'époque d'avant le don du décalogue, l'époque où les Juifs étaient sous le décalogue et l'époque après l'arrivée de Christ, donc depuis l'incarnation de Christ jusqu'à la consommation des siècles. Son sacrifice couvrait les péchés de toutes les époques. Il n'y a pas besoin de recommencer. C'était fait une fois pour toutes, réglé. Nénine pour tout le monde, comme on dit. Et les derniers versets, 27 et 28, supérieur non seulement par sa puissance, non seulement par sa place, mais aussi par sa portée. Une portée, c'est quelque chose qui va loin. Il y a une portée, dans le verset 27, on parle d'une portée eschatologique. Ceux qui ne sont pas habitués avec les grands termes, eschatos, ça veut dire fin, Ça veut dire les choses de la fin. Quand on parle d'eschatologie, on parle des choses de la fin. Il y a une eschatologie individuelle, puis il y a une eschatologie collective. Et dans le verset 27, il parle de individuel, eschatologie. Autrement dit, quand on meurt, on va où? Il y en a qui meurent qui sont vieux, puis il y en a qui meurent qui sont jeunes. Alors pour eux autres, l'eschatologie peut être 12 ans, peut être 15 ans, peut être 30 ans. On a tout connu du monde qui sont morts à toutes sortes d'âges. L'eschatologie individuelle. Tous les hommes, ça nous dit dans le verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, ici, ça vient nous dire que ceux qui disent qu'on est réincarné, puis on est une réincarnation d'une fleur, puis après ça, on devient un animal, puis l'animal devient un homme, puis, ou bien non, puis les autres, la réincarnation va dans les deux sens, là. Tu pars du plus parfait, tu descends, si tu n'as pas réussi ta vie, ou tu t'en vas, si tu l'as réussi, tu montes. Complètement fou, c'est pour ça que la Bible nous dit, une seule fois. Les hommes meurent une seule fois. Donc, il n'est pas une question de... Alors, juste ce verset-là serait suffisant pour détruire la doctrine de la réincarnation. Mais, il y a une chose qu'on peut se poser comme question, encore une fois, dans le verset 27. Ça nous dit que les hommes peuvent mourir une seule fois. Il y a-t-il des exceptions dans la Bible du monde qui sont morts, qui n'ont pas connu la mort ou qui sont morts et ressuscités? Dieu, dans sa grâce souveraine, a décidé que certains hommes ne connaîtraient pas la mort, soit parce qu'ils ont été enlevés, ou parce qu'ils sont décédés, que Dieu les a ressuscités et qu'ils sont morts. Alors, eux, c'est les exceptions. Mais ça ne change pas la vérité du verset 27. Donc, après la mort, les hommes sont jugés. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ vont au ciel et les autres vont en enfer. Les seules exceptions sont les hommes que Dieu a voulu dans sa souveraineté, qui ne connaissent pas la mort physique, ou qui sont morts deux fois. Enoch et Élie sont les deux personnages qui n'ont jamais connu la mort. Dieu les a enlevés. Donc, ils n'ont pas connu ça, ce que c'était la mort. Et après ça, il y a eu ceux qui sont morts deux fois. Lazare, quand Jésus est venu voir Lazare, il était déjà mort. Il l'a ressuscité. Mais après, Lazare, il est mort. Donc, il est mort deux fois, lui. Et après ça, il y a eu les autres que le Seigneur a ressuscités dans le Nouveau Testament. Mais il y en a d'autres qui ne connaîtront pas la mort. Est-ce qu'on va être dans ceux-là? On ne sait pas. Mais tout le monde souhaiterait, comme chrétien, d'être ceux qui ont le retour du Seigneur. Le Seigneur va enlever les siens et eux ne connaîtront pas la mort. Alors, les saints qui seront vivants à la seconde venue de Christ ne connaîtront pas non plus la mort physique. Oui, des exceptions, mais ça n'enlève rien à la vérité. Maintenant, verset 28, dans la première partie, on parle d'eschatologie collective. De même, Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs. Là, on ne parle pas d'individus. Tous les hommes vont mourir une seule fois, on parle d'individus. Ici, il dit qu'il a porté les péchés pour plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Donc, on parle de quoi? On parle de la seconde venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, à ceux qui l'attendent pour leur salut. On l'attend-tu pour notre salut, nous autres? Ben oui, on l'attend pour notre salut. C'est notre glorieuse espérance. Donc, ce passage-là nous parle de l'aspect collectif, tous les élus de toutes les époques de son œuvre. Maintenant, le verset, la dernière partie du verset 28, ça nous parle que Christ a promis qu'il reviendrait sur la terre, sa deuxième venue. Jean 14, versets 2 et 3. Jésus lui-même dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Autre chose qu'il faut prendre conscience aussi, c'est que au jugement général, les élus vont être là. Et ils vont se rendre compte que eux, leur nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est un passage que j'ai prêché très souvent, car elle est dans les rues, je le disais tout le temps. Et c'est un passage qui est tellement puissant. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, Dieu le Père Jésus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Imaginez-vous, quand la présence de Dieu, c'est tellement impressionnant que même le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12, c'est des versets terrifiants. Et je vis les morts, les grands et les petits, que tu sois premier ministre, que tu sois le plus grand financier de la terre entière, tu vas comparaître comme tout le monde, qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts. Quels sont les livres qui sont ouverts? Leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la terre? Rien de ce qu'ils ont pensé, dit ou fait ou omis ou faute secrète va être présenté publiquement devant tout le monde pour montrer la justice de Dieu. Voyez-vous, plusieurs livres ouverts, les livres des individus, leurs péchés sont inscrits dedans. Et Dieu a une mémoire phénoménale. Moi, si vous me diriez, nomme-moi tous tes péchés, puis prends 10 ans pour me les nommer, je ne suis pas sûr que j'y arriverais. Je n'oublierais. J'oublie mes propres péchés. Dieu n'oublie aucun péché. Aucun péché. Quand il dit que des livres furent ouverts, c'est que ça va être démontré sans aucun ombre d'un doute que tu les as toutes commis. Personne ne va oser dire à Dieu, « Ben là, on va appeler mon avocat. » Il n'y aura pas d'avocat, là. Et il y en a un autre qui est ouvert, le livre de vie. C'est quoi le livre de vie? C'est le livre dans lequel est inscrit tous les noms des élus de toutes les époques. Et si ton nom est écrit là, tu ne seras pas jugé pour tes péchés parce qu'ils ont été déjà jugés par Jésus-Christ, par le Père sur Jésus-Christ. Et les morts furent jugés, voyez-vous, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13, la mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Voyez-vous, ceux qui actuellement sont en enfer, là, sont là avec leur esprit, mais leur corps, ils ne l'ont pas. Mais à la fin, ils vont reprendre leur corps et quand ils vont être plongés vivants dans le lac de feu, ça va être avec leur esprit et leur corps réunis. Pourquoi il fait sortir les morts de la terre, de la mer, de la mort et du séjour des morts? C'est pour qu'ils reprennent leur corps dans lequel ils ont péché. Et ça va être dans leur corps qu'ils vont subir le châtiment éternel. Et dans le verset 14, il y a la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et le dernier verset est très solennel. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Dieu connaît les siens et il connaît les noms de ceux qui sont écrits là-dedans et eux ne sont pas jugés, mais les autres. Terrible. Si on s'arrêtait à vraiment que Dieu nous donnait une pleine compréhension de ce verset-là, on serait terrorisé. Alors, on est bien heureux d'avoir cette glorieuse espérance. Tite 2, versets 12 et 13, dans la version Sterval. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Et le dernier verset est intéressant. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Moi, j'aime bien cette version-là parce que dans la version, c'est d'une clarté limpide que notre Dieu, Jésus, est à la fois notre Sauveur et à la fois notre Dieu. Regardez bien, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire, ça veut dire que quand Jésus va revenir dans sa deuxième venue, manifester, ça veut dire rendre visible à tout œil. Sa gloire divine dans chacun de ses attributs va être tellement impressionnante qu'aucun être humain est capable d'imaginer jusqu'à quel point ça va être impressionnant. Et la manifestation de la gloire de notre, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Quand Jésus va revenir, tous les êtres humains vont se rendre compte de l'infinie grandeur de Jésus dans la manifestation simultanée de tous ses attributs. Ça va être épouvantable. Pas pour rien quand on lit dans l'Apocalypse que les hommes vont vouloir aller se cacher dans des cavernes, rochers tombés sur nous, ils vont être terrorisés. Parce que quand Jésus eut sa première venue, c'était dans l'humilité, comme un bébé. Il a grandi, tout le monde l'a bafoué. Très peu de personnes ont compris durant sa vie qu'il était le Messie. Il y a eu un petit éclair de génie de Pierre ici et là. Mais en général, les apôtres, ça a pris la résurrection et ça a pris l'ascension avant qu'ils comprennent qui Jésus était. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils saisissent. Mais là, quand il va revenir, il n'y a pas personne qui va se douter, qui va avoir un doute sur qui s'en vient. C'est notre grand Dieu et Sauveur avec l'expression manifeste, quand ça dit, et la manifestation de la gloire. La gloire, c'est l'expression simultanée de tous ses attributs. Justice, sagesse, perfection, intelligence, omniscience, omnipotence, et on pourrait, toute la liste, là. Ils vont tous voir ça en même temps. Ça va être terrorisant. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? La première, très certainement, rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné Jésus-Christ. Par lui, nous sommes parfaitement purifiés. Nos péchés ont été ôtés et payés substitutivement, et l'obéissance parfaite à la loi a été accomplie à notre place. Nos péchés sont réglés. Juste à penser à ça, là. Aux yeux de Dieu, tous les péchés que j'ai commis dans mon passé, les péchés que je vais faire aujourd'hui, parce que même aujourd'hui, je vais en faire, vous d'autres aussi, puis les péchés qu'on va faire dans l'avenir, tous ces péchés-là, sans aucune exception, Christ a payé pour. Et si Dieu le Père me disait, oui, mais c'est bien beau, tes péchés sont payés, mais t'as-tu accompli ce que je t'avais demandé? L'obéissance parfaite à la loi? Non, personne n'a fait ça. Il faut vraiment saisir que la substitution, c'est les deux choses, l'obéissance préceptive et l'obéissance pénale. Pénale, c'est qui est prêt à punition. Préceptive, c'est qui accomplit les exigences que Dieu avait envers chacun d'entre nous. Il le fait à notre place et c'est garanti. Pourquoi c'est garanti? Parce qu'il est aujourd'hui au ciel, il est ressuscité et on est en lui, ancré en lui. Un ancre qui n'est pas brisable. Et ça, c'est une des plus belles... C'est pour ça que quand on pense qu'il y a des personnes qui prêchent la perte du salut, c'est fort probablement qu'ils n'ont pas compris la nature du salut. Parce que, et là je mets un gros « si ». Si tu es véritablement sauvé, le « si » est un gros, là, un gros « si » majuscule, gros, gros, gros. Si tu es sauvé, si le Seigneur t'a sauvé, il va te prendre de l'endroit où il t'a sauvé et il va te rendre à ta destination finale. Pour la simple et bonne raison que nous sommes en lui, Éphésiens nous dit qu'on était en lui, le Père nous avait pris et nous avait élus et placés en lui de toute éternité. Et quand il est venu faire l'œuvre, il est venu faire l'œuvre à notre place, de ce qu'on a dit tantôt. Et aujourd'hui, il est ressuscité, donc Dieu a... C'est comme si c'était un étampe. Dieu a mis son étampe d'approbation sur son œuvre. Oui, il va reconnaître que nos péchés sont payés. Oui, il va reconnaître que ses exigences ont été rencontrées, mais substitutivement. Alors, c'est très important de saisir ça. Deuxièmement, deuxième application, soyons conscients que Christ est actuellement au ciel et que nous sommes en lui. Personne ne peut nous enlever de lui. On est en lui, on peut être en plus grande sécurité que ça. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité, il parle à des chrétiens, là. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Comment vous pouvez comprendre ça? On est ressuscité avec Christ. Là, il faut faire travailler nos ménages un peu, là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Quand Jésus est assis, c'est un symbole. Mon œuvre est accomplie. Ce que le Père lui avait ordonné de venir faire pour nous sur la terre, le fait qu'il soit assis démontre que l'œuvre que Dieu lui avait donnée est terminée. On est en lui. Alors, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et verset 3, il faut s'arrêter aussi à réfléchir un peu. Car vous êtes morts. Vous êtes des vivants, là, puis je vous dis, car vous êtes morts. On est mort comment? On est mort en Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Troisième application, attendons patiemment le retour de Christ et en vivant saintement. Jacques 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est son second retour. la deuxième venue. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça fait 2000 ans qu'on lit la Bible, et toutes les générations ont pensé qu'on était proche. Pour le Seigneur, c'est proche. On est peut-être très proche de la fin. On ne sait pas. Personne ne sait. Il n'y a pas personne qui sait. Beaucoup de monde qui a toutes sortes de théories. On est proche de la fin. Possiblement. Mais le Seigneur nous dit, prenez patience. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement... C'est inspiré par l'Esprit de Dieu, ça. L'Esprit de Dieu veut, car l'avènement du Seigneur est proche. Sa deuxième venue est proche. Et quand il va apparaître, ce ne sera plus le temps de se convertir, la job est terminée, c'est terminé, là, on ne joue plus, c'est fini. Alors que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni, exalté et adoré éternellement. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, merci encore une fois de nous avoir rappelé ces grandes vérités. L'Épître aux Hébreux est d'une grande richesse, Seigneur, et dès qu'on se donne la peine de l'étudier, on en découvre des richesses qu'on n'avait pas vues nécessairement et Seigneur, on apprend par cela qu'il est nécessaire, quand on lit tes Écritures, de lire lentement et de se poser des questions, parce que parfois le texte nous amène des questions et ça nous montre une chose qu'on lit trop rapidement et on lit sans assez de méditation. Alors Seigneur, apprends-nous à aimer tes Saintes Écritures davantage, à y passer plus de temps, à les étudier, à les méditer et à les mémoriser. À les écouter et à mettre en pratique ce que tu nous commandes, parce que dans chaque sermon que tu nous donnes, Seigneur, tu parles à travers un instrument qu'est le prédicateur, et tu as des choses à dire à chacun de tes enfants individuellement. Permets qu'on comprenne ces choses et qu'on applique ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.